Sortie de boîte, Cédric Adrover.
Dans les locaux de l'entreprise de mon invité, il y a un mur avec de nombreux certificats. La plupart concernent de l'expertise technique, Oracle, MySQL. On est dans une boîte d'informatique. Mais un certificat est plus récent, il tire l'œil. Great Place to Work. En français, une entreprise où il fait bon travailler. DBI Service a terminé 7e de ce programme, 7e Suisse donc, dans la catégorie 20 à 49 employés. Du coup, en arrivant, on est un petit peu curieux. On se demande, est-ce qu'il y aura une musique douce, des tables de massage, des bougies parfumées? Oui non, on travaille quand même chez DBI Service. Mais on peut travailler debout, et c'est spacieux. Et les bougies parfumées, elles sont là, couleur orange et noire, les couleurs corporate qu'on retrouve un peu partout dans la boîte. On m'installe dans une salle lumineuse, mon invité me rejoint, on prépare l'émission, on parle bonheur au travail, informatique et défis d'avenir, autant de sujets qu'on va évoquer ce soir, mais cette fois depuis notre studio. Bonsoir Grégory Stollet.
Bonsoir.
Vous êtes le CFO de l'entreprise DBI Service située à Delémont, CFO, directeur financier. Vous êtes aussi un fondateur de la société, on y reviendra, et un enfant de la région. Vous vous rappelez de votre premier contact avec l'informatique ?
Mon premier contact avec l'informatique, c'était à... Je pense que c'était sur l'ordinateur portable de mon papa. Mon papa était un fan, et toujours un fan d'informatique, et du reste, c'est un peu lui qui m'a initié.
La pomme n'est pas tombée bien loin de l'arbre, du coup.
Exactement.
Quelles études vous avez faites ?
J'ai commencé des études à Porrentruy, à l'HMP, et j'ai enchaîné ces études à la Chaux-de-Fonds, au CIFOM. Et puis j'ai continué avec un diplôme HES à Neuchâtel, à la HES de Neuchâtel. Et puis j'ai terminé finalement, il n'y a pas si longtemps, mes études, étant donné que j'ai repris les études à la trentaine. Et j'ai terminé un IMBA en informatique, en ICT, comme on dit, à Fribourg.
De toute manière, quand on est dans le monde de l'informatique, est-ce qu'on peut arrêter d'étudier à un moment donné ?
Non, je ne crois pas.
Pas vraiment, hein. À quel moment vous êtes dit « je vais lancer mon entreprise » ?
En fait, c'est pas forcément moi qui me suis dit que j'allais me lancer dans cette aventure. C'est un collègue à moi, Yann Neuhaus, qui un jour m'a téléphoné et puis m'a dit « Mais finalement, est-ce que tu ne te retrouverais pas dans un projet de nouvelle entreprise ?» Il avait la prétention de penser, et je pense à juste titre, qu'on pouvait faire ce qu'on faisait d'une manière différente, et puis je l'ai rejoint.
Vous avez hésité ?
Non, je n'ai pas hésité parce que j'aime les challenges et puis je crois qu'on est dans un monde où il faut savoir sortir de temps en temps de sa zone de confort.
Ce challenge, au début, il était représenté par quoi ? C'était quoi les difficultés principales ?
La difficulté principale, c'était sans doute une difficulté financière. Ça a été peut-être la première difficulté, effectivement, parce que quand on lance son entreprise, qui plus est quand on la lance à neuf, parce qu'on n'est pas parti tout seul, il faut payer des salaires. Et puis, payer des salaires, ce n'est pas forcément évident lorsque on a neuf employés qui attendent leur salaire à la fin du mois, et puis quand on n'a pas forcément de clients. Donc ça a été un des principaux challenges.
Et une grosse pression, vous étiez déjà en responsable des finances à cette époque-là ?
Exactement, j'étais déjà responsable des finances à cette époque-là, et je ne vous cache pas qu'à la fin de chaque mois, je regardais ce qui restait sur notre compte en banque avec un peu d'appréhension.
Ça vous donnait un délai, un nombre de temps de survie ?
Alors oui, parce qu'on avait un capital action qui était fait finalement, qui était constitué de l'argent que les collaborateurs avaient mis à l'intérieur, étant donné qu'on a offert à tous les premiers collaborateurs la possibilité de participer au capital action. Et puis, c'était l'argent propre des collaborateurs qui constituait ce capital action. Et finalement, chaque mois, ce capital action diminuait, étant donné qu'on n'avait pas forcément de revenus financiers au début.
Ça, au lancement d'une entreprise, permettra à tout le monde de participer au capital action. Ça a quel impact ? Tout le monde se sent investi beaucoup plus que s'ils sont simples employés ?
Alors, je pense que ça les fait participer de fait plus, ils se sentent plus impliqués, et je pense que ça a eu un effet positif sur tout le monde. Du reste, c'est quelque chose qu'on a décidé de continuer à faire, et puis on offre à nos employés la possibilité de faire partie du capital action quasiment chaque année.
Ensemble, on va parler des conditions de travail, des locaux. Au tout début de l'entreprise, 2010 ?
2010, oui. Exactement, c'était fin 2010 où on a débuté cette aventure.
Ils ressemblaient à quoi les locaux ?
À pas grand-chose à vrai dire. Et ils étaient faits de briques et de brocs, si je peux dire ça. On a commencé finalement dans un appartement et puis on est allé chercher le mobilier à gauche, à droite. Quelques tables tenaient à peine. Et puis, c'est vrai que c'était assez, assez sportif, je dirais.
Aujourd'hui, ça a bien changé. On fera une visite tout à l'heure de l'entreprise avec Jean-Michel Probst. Il y a aussi beaucoup plus d'employés. Hein. Vous êtes plus de 50. Avant d'y revenir, parlons un peu de votre domaine d'activité. En informatique, on parle souvent de software, les programmes, systèmes d'exploitation. On parle aussi du hardware, les ordinateurs, le disque dur, la souris, le matériel, en d'autres mots. Avec vous, j'ai appris qu'il y avait quelque chose entre deux. Expliquez-nous.
Effectivement, les éléments que vous avez cités sont pour la plupart des éléments tangibles qu'on peut toucher. Quand on se met face à un ordinateur, on a sa souris, son clavier. On voit également un logiciel. Ça peut être un logiciel de comptabilité ou peu importe le logiciel. Mais finalement, cette couche tangible qui est son ordinateur, sa souris, son clavier. Et puis la partie applicative, il y a un ensemble de couches qu'on appelle le middleware. C'est spécifique à notre jargon, c'est finalement toutes les couches qui se situent entre la partie applicative et puis la partie hardware. Alors on a le serveur d'application par exemple, on a la partie base de données, on a le système d'exploitation également qui constituent cette partie qu'on appelle le middleware justement.
Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites pour vos clients ?
On les aide, évidemment. mais plus que ça, on a plusieurs services. On a un service qui est le consulting, où on va chez nos clients concrètement, et puis on les aide à mettre en place des plateformes informatiques, des plateformes de bases de données, des logiciels très spécifiques. On a également un service où on fait du passage de connaissances, ce qu'on appelle des workshops. On vend également des licences. Et puis, finalement, on les aide quelquefois à régulariser également la partie licence par rapport à l'éditeur.
Mais donc là, le middleware, c'est vraiment essentiellement de la base de données. On peut réduire à ça ou c'est trop réducteur ?
Non, c'est effectivement un peu réducteur que de réduire ça à la base de données. Je dirais que c'est ce par quoi on a commencé, mais avec... le développement de l'activité, on s'est penché sur d'autres logiciels. Je peux penser au logiciel documentaire, par exemple, ou d'autres logiciels. Mais c'est largement plus grand que la base de données, simplement.
Aujourd'hui, sans dévoiler de noms spécifiques, qui sont vos clients ? Quel est le type de client qui vient chez DBI Services ?
Alors, je ne pense pas qu'on puisse vraiment définir un type de client cible. Effectivement, c'est rarement des indépendants, c'est plutôt des sociétés à partir de 50 collaborateurs. Mais ça peut aller de la Fédération des vaches laitières Holstein jusqu'aux centrales nucléaires, en passant par exemple par la radio-télévision suisse-romande. Donc il n'y a pas vraiment de clients type. Il y a aussi
les trois sont vraiment vos clients ?
Tout à fait.
Ah oui, d'accord.
Non, tout à fait. Je ne les invente pas. Et puis, par rapport à ça, on n'a pas de clients type spécifiques. On a aussi bien des clients dans le domaine public que dans le domaine privé. Et puis, ça va jusqu'à la multinationale. La société, à partir de 50 collaborateurs, peut également être client chez DBI Services.
Comment vous les démarchez ? Sont eux qui viennent chez vous ou vous cherchez à les démarcher ? Vous avez un service commercial ?
Alors, je dirais que notre démarchage n'est pas le même aujourd'hui qu'il l'a été par le passé. C'est vrai qu'au début, on prenait notre téléphone et puis on appelait. Ça n'a pas toujours été couronné de succès, à vrai dire, mais c'est comme ça qu'on faisait au début. Du reste, c'est également une méthode qu'on utilise toujours aujourd'hui, ce qu'on appelle de l'acquisition à froid. Mais aujourd'hui, on a la chance d'être un peu plus connu et puis quelquefois, c'est également des clients inconnus qui nous appellent.
Le bouche à oreille.
Exactement, le bouche à oreille.
Il y a quelques temps, votre société s'est distinguée, on l'a dit, en se classant 7e Suisse d'un programme qui évalue le bonheur au travail, la satisfaction au travail des employés dans la catégorie 20 à 49 employés. Ça s'appelle Great Place to Work, c'est le nom du programme. Pourquoi vous y avez participé ?
Pour deux raisons. La première raison est simple. On a de la difficulté, effectivement, à trouver dans notre domaine d'activité des ressources humaines pour nous rejoindre. Comme vous l'avez dit, on a commencé à 9, on est plus de 50, on va sans doute arriver à 60 à la fin de l'année. Pour supporter cette croissance, on a besoin de collaborateurs. Il s'avère qu'on est dans un domaine vraiment très spécifique, comme on l'a expliqué tout à l'heure, de l'informatique, et trouver des ressources dans ce domaine-là est très difficile. Donc il faut réussir à les faire venir. Et puis, c'est un moyen publicitaire comme un autre, Great Place to Work, pour susciter l'intérêt de ce type de collaborateurs. L'autre aspect, c'est également dire à nos collaborateurs, vous voyez, finalement, chez DBI Services, on offre des conditions de travail qui sont très bonnes, excusez-moi, et restez chez nous.
On tient à vous.
Oui, on tient à vous.
Concrètement, ça s'est passé comment, ce programme ? C'est un peu comme un audit ?
Oui, c'est un audit qui a la particularité de questionner directement les collaborateurs. Finalement, si aujourd'hui on fait partie de cette société, enfin de ces sociétés qui sont vues décerner ce label Great Place to Work, c'est grâce à nos collaborateurs, parce que finalement c'est une récompense que nous ont octroyé les collaborateurs.
Septième, vous vous y attendiez ?
On ne s'y attendait pas forcément. Non, on ne s'y attendait pas forcément, bien que notre objectif pour l'année prochaine est d'être premier, évidemment. Mais on ne s'y attendait pas. Non, on a été très satisfaits de le savoir.
Vous arrivez déjà à dire ce que ça vous a apporté de participer à ce programme ou c'est trop tôt ?
Non, il y a déjà des choses très concrètes que ça nous a apporté à travers les questionnaires auxquels auraient répondu nos employés. On a pu voir quelles étaient leurs attentes. Et puis, ça nous permet d'y répondre d'autant mieux maintenant qu'on a pu identifier clairement les attentes.
On a fait, nous aussi, modestement, notre audit dans votre entreprise. On a envoyé Jean-Michel Probst pour visiter la société. C'est Magali Blenner, assistante exécutive, qui l'a guidé. Écoutez son reportage.
Sortie de boîte.
Le bien-être des employés chez nous, c'est l'importance d'avoir une convivialité, un esprit d'équipe qui motive bien évidemment tous nos employés.
Bonjour.
L'entreprise a commencé avec 9 employés. Nous sommes actuellement 55 employés et nous cherchons à garder cet esprit de départ, de start-up qui, encore une fois, motive tous nos employés.
Qu'est-ce que vous dites à un nouvel employé qui vient ici et qui va entrer dans cet esprit d'équipe ?
Alors, la première des choses, c'est que tout le monde se tutoie chez DBI. Alors, quand une personne commence, le premier jour, à la première heure, on va lui proposer le tutoiement.
On tutoie le patron ici ?
Oui, bien sûr. Tous les collaborateurs tutoient les personnes de la direction.
C'est comment votre prénom ?
Saïd.
Qu'est-ce qu'il y a comme plaisir particulier en travaillant ici chez
DBI ? Ben, l'atmosphère, l'ambiance, la joie de travailler ensemble.
Je vois que vous travaillez debout.
Oui, j'alterne. Je travaille environ 4 heures assis et j'essaie d'alterner 2 heures debout. J'alterne pour me détendre, ça me fait vraiment beaucoup de bien.
Finalement, Magali Blenner, est-ce que cette convivialité, est-ce que ce bien-être au travail, clairement on peut mesurer ça en ce qui concerne la capacité de l'entreprise, l'efficacité de l'entreprise?
Alors oui, bien sûr, je pense. Nous ne cessons d'accroître notre chiffre d'affaires grâce à cette convivialité, à cet esprit d'équipe qu'on a su mettre en place. L'essentiel est maintenant de pouvoir le garder pour toutes les années futures. Bien sûr, nous avons aussi eu des points d'amélioration. Pour cela, nous avons mis en place des groupes de discussion, dont l'un sur la communication, l'autre sur le home office, pour certaines personnes de pouvoir travailler à distance de la maison. Et nous allons voir comment répondre aux attentes de nos employés. Nous avons aussi un groupe concernant l'environnement qui va s'occuper aussi, par exemple, de la décoration de nos locaux, car ils sont tout neufs et peut-être qu'effectivement, on pourrait y rajouter un petit point de couleur. Donc là, c'est les employés qui vont pouvoir proposer certaines idées.
On a des chocolats DBI Service. D'ailleurs, je vous en donne volontiers une plaque.
Ça fait toujours plaisir. On dit souvent que finalement, se réveiller le matin avec le plaisir d'aller travailler, c'est aussi un des éléments importants qui fait avancer l'entreprise. C'est la première règle de base ou une des règles de base ici.
Ah oui, je pense que c'est effectivement une règle de base. Tout le monde a plaisir à venir travailler. Tout le monde fait le tour de tous les locaux en arrivant le matin pour dire bonjour à chacun. On n'oublie jamais personne. Et c'est toujours. On peut échanger quelques mots. Alors effectivement, la direction aussi a toujours la porte ouverte et peut à ce moment-là aussi échanger quelques mots avec tous les collaborateurs.
Je vois qu'il y a un baby-foot dans votre cuisine. Il y a des tournois qui s'organisent ici parfois.
Alors des tournois, non, pas vraiment, mais régulièrement les gens viennent faire une petite pause de 5-10 minutes en buvant leur café. Prennent le temps aussi de faire un petit baby-foot.
Hey, Maël, tu dois marquer un but là quand même.
On est meilleurs en
papier. C'est parce que j'ai pas de dynamite.
Ah oui.
Ça, il m'a amené une plaque de brownie
long. Voilà, tu vois.
Sortie de boîte.
De retour dans notre studio de Delémont avec Grégory Stelet, directeur financier de DBI Service. Champion de babyfoot ?
Non, malheureusement.
Pour revenir un peu sur ce qu'on a entendu, un premier élément, c'est le tutoiement. Tout le monde se tutoie chez vous. C'est quelque chose qui fait parfois débat dans les entreprises. On dit, quand on est patron, il faut éviter de tutoyer, il faut créer un tout petit peu de distance. Quand la situation est plus compliquée, c'est bien qu'il y ait cette distance. Vous n'êtes pas du tout dans cette philosophie, vous, du coup.
Non, effectivement. Et je ne pense pas que le vouvoiement aide à résoudre les problèmes. Le tutoiement, enfin, on l'expérimente maintenant depuis plus de 7 ans, permet tout aussi bien de résoudre des problèmes que si on se vouvoyait.
Même quand on est en conflit avec un collaborateur.
Tout à fait.
On a entendu le soin que vous portez à satisfaire vos employés. L'objectif, au final, c'est quoi ? C'est de ne pas se faire piquer les meilleurs éléments par la concurrence ?
Aussi, effectivement. Ouais. Aussi, c'est aussi quelque chose auquel on fait attention. Du reste, c'est vrai qu'il y a assez peu d'employés sur le marché dans notre secteur d'activité. Et quelquefois, on va aussi chercher les employés à la concurrence nous-mêmes.
Qu'est-ce que vous attendez en retour de la part de vos employés ?
Par rapport à Great Place to Work, vous entendez
Oui, par rapport aussi à tout ce que vous investissez pour qu'ils soient bien au travail. Qu'est-ce que vous attendez d'eux ?
Qui délivre la meilleure qualité de service. On parle souvent de customer experience dans notre domaine, enfin, dans tous les domaines qui soient. Donc,
l'expérience client, donc.
Exactement, l'expérience client. Et je pense tout à fait sincèrement que pour fournir une expérience client qui soit de qualité, il faut d'abord fournir une expérience employée qui soit de qualité. L'un ne va pas sans l'autre et quelquefois, on a tendance à l'oublier.
C'est vrai qu'en parlant avec quelqu'un qui est dans le même domaine d'activité que vous, qui me disait, chez mes collaborateurs, il y a la compétence technique, il y a aussi l'attitude qui est importante quand ils sont en contact avec le client. Ça, c'est quelque chose que vous partagez aussi ?
Tout à fait. La discussion à la machine à café avec le client est tout aussi importante que le fait d'être compétent techniquement. Il y a une grande partie sociale dans notre métier et je pense que ça représente la moitié de la compétence d'un collaborateur. Moitié compétence sociale, moitié compétence technique.
C'est quelque chose, on n'a pas forcément idée, il y a un peu des préjugés sur l'informatique, comme quoi on est un peu des rats dans un sous-sol qui tapent sur un ordinateur. On est très 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 loin de cette image en fait, en réalité. Hein.
Oui, tout à fait.
En préparant l'émission, et tout à l'heure vous avez parlé des difficultés que vous avez à recruter, notamment recruter local, des compétences très particulières. Et c'est vrai que sur la cinquantaine d'employés, quoi, une quinzaine de personnes qui viennent de Suisse, quelque chose
oui,
comme ça.
Oui, effectivement, il y a, pour être honnête, il y a une minorité de personnes qui viennent de Suisse.
Comment ça s'explique ?
Encore une fois, on a beaucoup de difficultés à trouver des personnes avec le bagage technique. Et quand je parle de bagage technique, je ne parle pas uniquement du bagage informatique, je peux également parler du bagage linguistique, parce qu'on a une société qui est active non seulement dans le Jura, évidemment, mais on est surtout actif sur les régions de Bâle, de Zurich et de Nyon. Et puis, on se doit d'avoir des compétences au niveau linguistique, notamment en allemand, en anglais et en français. Et ça, c'est un vrai challenge. Il s'avère que, également par rapport à l'aspect technique, les écoles ne forment pas de profil spécifique à notre métier, et ça, c'est une vraie difficulté.
Il y a des lacunes dans la formation dans votre domaine d'activité ?
Alors, ce n'est pas forcément des lacunes. Je dirais que les écoles informatiques donnent une excellente base technique qui permet de construire là-dessus. Mais c'est vrai que par rapport à notre métier, à nos spécificités, il est nécessaire d'y ajouter une formation qui peut quelquefois être longue.
Mis à part, du coup, recruter à l'étranger, qu'est-ce que vous, en tant que société, vous pouvez faire pour lutter là contre ?
Concrètement, on a déjà fait quelque chose par rapport à ça, étant donné qu'on a un programme pour former des jeunes. On a un partenariat avec la HES de Neuchâtel, où on fait une formation qu'on appelle la Database Excellence Academy, où on forme chaque année des jeunes en fin de cycle sur la partie de base de données, spécifiquement par rapport à la base de données.
Vous les accueillez chez vous, ils ont une formation chez vous directement ?
Tout à fait, donc ça se passe de la manière suivante, on va présenter la formation dans les écoles, et puis on demande à chaque étudiant d'envoyer son CV, une lettre de motivation et les raisons qui font qu'il est intéressé par cette formation. Et puis on sélectionne les candidats et pendant 5 à 10 jours, on les forme gratuitement chez nous. Il y en a certains qui sont effectivement intéressés par le métier et qui poursuivent. Du reste, on en a déjà engagé.
Ah oui, donc ça fonctionne.
Tout à fait, ça fonctionne. Donc c'est quelque chose qui nous permet également d'engager des jeunes de la région. Et puis ça fonctionne très bien. Et puis quelquefois, il y en a certains qui se rendent également compte que ce n'est pas leur voie ou que ce n'est pas leur domaine d'intérêt. Et puis ils changent d'orientation.
Donc pour vous, c'est forcément des coûts et un investissement, former des gens pendant une durée comme celle-ci. Mais ça se rentabilise en termes d'engagement. Derrière.
Alors, ça se rentabilise en termes d'engagement derrière, c'est effectivement des coûts importants, mais aujourd'hui, ce n'est pas un choix pour nous. On n'a pas le choix. Notre seul choix, finalement, est d'engager localement ou à l'étranger. Et puis, aujourd'hui, on préfère effectivement engager localement. On n'a pas toujours le choix, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'y a que 15 personnes qui sont d'origine suisse dans notre société.
On change complètement de domaine, mais est-ce que vous avez par hasard gardé chez vous un très vieil ordinateur que vous chérissez, une pièce de musée, quelque chose comme ça ?
Alors, chez moi, personnellement, oui. Chez DBI Services, non.
Parce qu'en horlogerie, il y en a beaucoup, des passionnés qui gardent de vieilles pièces et qui les restaurent. La preuve avec la chronique horlogère de Marie-Lise Saillard.
Pile à l'heure.
Certains ne jurent que par les voitures neuves, surveillent tout ce qui se passe dans le monde de l'automobile et veulent profiter des dernières technologies.
Michael, attends. C'est moi qui...
Et puis il y a les passionnés de rétro. Ceux qui n'ont Dieu que pour les voitures de collection, ceux qui cherchent la pièce d'époque qui leur manque et qui passent tout leur temps libre à bricoler et bichonner leur titine. Et bien dans l'horlogerie, c'est pareil. Les grandes marques qui sont à la pointe de l'innovation ne tournent pas pour autant le dos aux pièces d'époque, trésors du patrimoine. Et les collectionneurs possédant une pièce qui a besoin d'être restaurée s'adressent aussi souvent aux entreprises qui comptent des spécialistes au sein de leur personnel. Exemple chez Tagueyère, où Denis Charnon, qui est horloger-habilleur, s'occupe des pièces vintage, c'est-à-dire pour cette maison des montres de 1860 à 1984. Nous le trouvons en train de restaurer une pièce Tag de 1916.
C'est un 360 000 alternance heure. C'est un micrographe qui fait un tour en 3 secondes. Donc on arrive à chronométrer le centième de seconde.
Dans quel état elle était cette pièce ?
En bon état pour son âge. Elle a quelques petits problèmes, dont un pivot cassé, une pierre cassée. Donc j'ai la chance d'avoir un papa qui est horloger, donc il m'a prêté... des outils d'époque pour pouvoir la réparer.
Parce que pour réparer une pièce ancienne, il faut des outils contemporains de cette pièce ?
Oui, exactement. C'est des outils. Alors, il y en a certains, on peut faire sans. Mais il y a certains outils. À l'époque, c'était des pierres serties, ce n'était pas des pierres chassées. Donc, il faut dessertir la pierre et ressertir la pierre. Donc, remettre une pierre d'époque en verre, qui n'était pas encore un don, puisque c'était du verre à l'époque. Et donc, il les teignait en rouge, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un rubis. Et c'était du verre rouge, donc il faut remettre comme à l'époque, quoi.
Et une fois la pièce restaurée, il faut la remettre à son propriétaire. Arrive la question du transport qui s'avère souvent délicat. On retrouve Denis Charnon.
Dans le transport, elle a eu quelques problèmes, on nous l'a renvoyée. Et là, on lui a fait un emballage bien particulier, donc avec ballon de baudruche et tout, pour éviter justement la casse à l'envoi de la pièce, quoi. Et le deuxième envoi était le bon. Donc c'est vrai qu'on n'est pas le transporteur, on ne sait pas comment est-ce qu'il gère nos colis. Quand on a des pièces d'exception, on évite de marquer dessus que c'est une pièce d'exception. Donc est-ce que le colis a volé sans elle, ce qui peut arriver, puisque bon, dans les centres de tri, ils font pas très attention. Et donc du coup, maintenant, on essaye de trouver des petites combines pour éviter les casses.
Pile à l'heure.
Une chronique que vous retrouverez dans quelques minutes sur notre site internet, en même temps que l'entretien que vous nous avez accordé, Grégory Stelet, directeur de l'entreprise DBI Services, Adelémont, directeur financier. Avant de vous laisser partir, un mot sur l'avenir de votre société. L'informatique évolue terriblement vite. C'est quoi les défis qui vous attendent pour les prochaines années ?
Alors, on parle souvent de cloud. Le cloud en Suisse, c'est vrai que c'est pas encore très développé, mais ça commence. Et puis, c'est vrai que ce sera sans doute un défi pour l'avenir. Plus particulièrement par rapport au sujet dont on a évoqué également, l'engagement de nouveaux collaborateurs, c'est également un challenge. Donc, d'un côté, des challenges techniques et de l'autre côté, des challenges humains.
La semaine prochaine, on risque d'en reparler puisqu'on restera dans l'informatique. On parlera de transformation digitale, d'entreprise libérante, là où le chef laisse tomber un peu son pouvoir pour se mettre au service de son personnel. C'est Michel Perrin, directeur de la société Uditis située à Peseux, qui sera notre invité. Vous le connaissez ?
Très bien.
Ah ben voilà, comme quoi c'est un petit monde. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Grégory Stelet. Très bonne soirée à vous.
Merci.
Bonne soirée à toutes et à tous. Et à la semaine prochaine.